Notre lecture se trouve dans Éphésiens, chapitre 1er, à compter du verset 15. Michel m'excusera, mais je reprends le même texte qu'il a pris il y a 15 jours, mais je pense que c'est la volonté du Seigneur que nous y revenions. Alors, faut faire la volonté du Seigneur. Voilà, Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, c'est Paul qui parle, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. La prière de Paul, ici, c'est que non seulement les Éphésiens jouissent d'une bonne vue, qu'ils aient de bons yeux, mais qu'ils aient, pour les yeux de leur cœur, un bon éclairage. Il est bon d'avoir une foi éclairée, car avec une foi mal éclairée, on peut faire n'importe quoi. Et donc, ils demandent à ce qu'ils aient un bon éclairage, que leur cœur soit illuminé de la lumière du Seigneur. Paul parle de clairvoyance afin de discerner les choses, afin de savoir quelle espérance s'attache à notre appel, quelle richesse est l'héritage qui nous est échu et quelle est la puissance qui est déployée en Christ. Paul parle de clairvoyance, c'est plus que la faculté de bien voir. C'est la capacité à porter notre regard plus loin sur le monde en général et plus particulièrement sur le monde de Dieu, afin de juger de chaque chose correctement, de les apprécier. L'on peut avoir une excellente vue. Je vois que certains n'ont pas de lunettes, c'est qu'a priori ils ont une bonne vue. Mais plonger dans une demi-obscurité, ne pas discerner correctement les choses, et de ce fait avoir un champ de vision restreint ou nul par manque d'éclairage. Paul demande que la lumière divine soit braquée sur le cœur des Éphésiens afin de ne pas restreindre Dieu dans sa capacité à les secourir, à subvenir à leurs besoins, à opérer en leur faveur des miracles, leur accorder une délivrance. Ce fut la pensée de l'Esprit adressée à l'Église locale, c'est-à-dire à l'Église de Kévin, récemment, exprimée dans un don spirituel sur lequel je désire rebondir ce matin. Que disait l'Esprit à l'Église en substance ? Il nous demandait d'ouvrir nos yeux, ouvrez vos yeux, car je veux vous montrer ma puissance. Vous limitez ma puissance par vos pensées. Et Dieu l'affirmait par l'Esprit, je ne fais rien à moitié. Alléluia. Je ne fais rien à moitié. Vous croyez en ce Dieu-là ? Je peux tout, mais votre incrédulité limite mon action. Vous êtes malade, ne suis-je pas celui qui guérit ? Empêtré dans des liens, ne suis-je pas celui qui délivre ? Demandez-moi pardon pour votre incrédulité. Voilà en substance ce message qui a été donné par une personne qui est au milieu de nous et dont vous vous souvenez certainement. Message qui, en tous les cas, m'a fortement impressionné et m'a amené à réfléchir et à réfléchir encore. Le jour où j'ai accepté le message du salut en Jésus-Christ, deux choses importantes, notamment, se sont produites. Les écailles de religiosité qui m'empêchaient de voir sont tombées de mes yeux, à l'instar de Paul sur le chemin de Damas. Les écailles. Ce qui m'empêchait de voir est tombé. Puis une lumière puissante m'a enveloppé, me permettant de voir de près, de loin, de découvrir dans quel monde j'étais et auquel Dieu voulait que j'échappe. C'est la découverte de l'existence de réalités spirituelles plus réelles que les choses matérielles jusque-là ignorées de mon cœur. Et c'est aussi votre expérience. Si je prends ce micro comme ceci, que je le serre fortement, ben je sens que dans les mains j'ai quelque chose de dur. On est d'accord ? Eh bien, les réalités spirituelles sont plus réelles que ce que je ressens. Nos yeux s'ouvre sur un monde qui nous était totalement inconnu et pourtant si proche. Il est écrit, et il en a été question dans une prière, « Un voile subsiste sur le cœur de ceux qui ne se convertissent pas, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Le voile est ôté. Et la lumière divine peut être perçu. D'où l'importance d'avoir de bons yeux, d'en prendre soin, voire de les soigner si c'est nécessaire. Si nous avons une mauvaise vue ou si nous sommes atteints de cécité spirituelle, le Seigneur a un collyre pour nos yeux. Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. À qui s'adresse-t-il ? Aux membres d'une église attiédie dont les œuvres étaient connues, mais qui avaient cette caractéristique d'être ni froide ni bouillante, et je vous fais grâce du reste. Ces membres, les membres de cette église, de cette communauté chrétienne, avaient-ils des lunettes tip-top, montées de verres complexes, à la mode ? Qu'est-il dit de cette communauté ? Qu'elle est riche. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, je te conseille d'acheter de moi ou chez moi un collyre. Ce sont les yeux de ces croyants qui sont concernés. Et si cela était notre cas, La volonté du Seigneur, entendez bien, la volonté du Seigneur n'est pas de chausser notre nez de lunettes, mais de nous guérir de notre cécité. Jésus est venu pour que les aveugles voient. Que veux-tu que je te fasse ? Que je recouvre la vue. La bonne nouvelle, c'est que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent, que les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ou encore, Jésus est venu dans le monde pour éclairer tout homme, toute femme. Je suis la lumière du monde, celui qui marchera après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors revenons à notre texte où Paul écrit « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur ». Monsieur Quen traduit ce passage par « Qu'il vous accorde une pleine lumière, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, c'est-à-dire une vision plus juste, plus précise, plus large, afin de ne pas restreindre Dieu dans son action en notre faveur, mais lui permettre de se révéler pleinement à nos cœurs. L'acuité se dit de la capacité d'esprit, notamment, à comprendre. L'on parle d'intelligence d'une grande acuité. Eh bien, Dieu veut que nous ayons cette intelligence d'une grande acuité. Dieu veut que notre esprit ait cette faculté de comprendre ce qui est incompréhensible, qui n'est pas donné à l'homme naturel de percevoir, de saisir. Car n'oublions pas cette déclaration du Seigneur, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'Éternel à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissances ? Et Dieu, de lui rappeler les merveilles de sa création, Dieu remet Job à sa place. Eh bien, je crois qu'il y a quelque temps, nous avons été remis à notre place par ce don spirituel très précis. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai été remis à ma place. Ça m'a amené à réfléchir et à penser. Même si nous avons un peu de connaissance spirituelle, même de la connaissance générale ou biblique, c'est infiniment décimal en comparaison de la connaissance que Dieu a. Car le peu que nous savons spirituellement, c'est ce que Dieu a bien voulu nous révéler par son esprit. D'accord ? Bien d'accord. Si nous savons un petit peu quelque chose, c'est ce que Dieu a bien voulu nous révéler par son esprit. Déclaration de Jésus a été faite un instant, n'est pas uniquement en rapport avec la pensée de l'homme d'aujourd'hui. Dès le commencement, c'est-à-dire dès la Genèse, il est fait mention de l'homme dont le cœur est faussé, ce qui produit de mauvaises pensées et engendre de mauvaises actions. Lorsque Dieu rattrape Caïn après le meurtre de son frère Abel, il y a cet étrange dialogue. « Où est ton frère, Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas, mais suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. » Il est alors précisé que Caïn sortit de la présence de l'Éternel et parti habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Nod voulant dire terre de vagabondage. Vagabondage. Quand on se coupe de la présence de Dieu, l'on devient errant, sans guide, une brebis sans berger, apte à toute déviance et par manque d'éclairage divin à commettre erreur sur erreur. Il y a la nécessité pour chacun de garder une bonne vue et de se laisser inonder par la lumière divine. Alors comment cette lumière peut-elle briller sur et dans nos cœurs? Par la parole de Dieu, dont il est écrit qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette parole est attachée à la personne du croyant. Cette lampe nous accompagne et nous éclaire parfaitement si nous le voulons bien. Un pasteur du mouvement de Pentecôte qui a connu le réveil de 34, c'est Pierre Nicole qui disait « La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. » C'était son leitmotiv. Frères et sœurs, lorsqu'on est de nouveau, et c'est votre cas, de nouvelles facultés nous sont données au travers de 5 sens. Vous connaissez les sens? Les 5 sens que nous avons: la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Eh bien, spirituellement, il en est de même. La vue spirituelle, c'est-à-dire la faculté de bien voir, de discerner, de saisir, de comprendre ce qui est spirituel, nous est donné à la nouvelle naissance. Cette faculté spirituelle de bien voir n'est pas naturellement en nous. Il faut le miracle de la nouvelle naissance. Et il faut bien être, parce qu'il y a des chrétiens qui sont mal nés, malheureusement. Ça pose problème. Il faut bien être, mais par la puissance du Saint-Esprit, quand le cœur est vraiment bien disposé, l'on est sans déformation. Alléluia. Reprenons notre texte. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. » Au sujet de cette puissance, de ce pouvoir, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Et moi, je dis, waouh, c'est la même puissance dont Dieu dispose en notre faveur. Michel, en ta faveur, Dieu dispose de cette puissance. Mais il n'y a pas que Michel, vous tous avez à votre disposition cette puissance de Dieu. On parle de la résurrection de Jésus 2000 ans après qu'elle ait eu lieu. C'est dire la puissance déployée par Dieu en cet instant précis pour ramener Jésus-Christ d'entre les morts. À cette heure, je me répète, en ce lieu, Dieu dispose de cette même puissance en notre faveur. On est OK? Oui? Amen. Dieu dispose de cette même faveur, même puissance en notre faveur. D'ailleurs, Jean-Marc en a lui aussi parlé dimanche, de cette puissance de résurrection pour faire revivre ce qui est mort et qui peut être en nous. Hein, c'est le cœur de l'homme, hein, c'est fait de plein de replis. Hein. Quand je me suis converti, Dieu a mis la lumière sur tous ces replis. Là, je puis vous assurer qu'il y avait des choses à confesser, à abandonner. Alors dans ces replis, il peut y avoir des parties qui soient mortes. ou comme endormi. On est bien d'accord ? Eh bien, la puissance de Dieu peut faire revivre tout cela. Redonner vie à ce qui est mort, à ce qui est endormi. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas de mon propre fond. Je vous le livre. Dieu désire s'investir. Dieu désire investir de sa puissance, nous tous qui formons cette petite communauté de Kevin. Dieu désire s'investir. Alors réfléchissez à cela dans la semaine qui vient. Dieu veut s'investir en vous, en nous. Pourquoi me direz-vous ? Parce que les besoins au sein du peuple de Dieu et en dehors sont nombreux. Besoins qui vont se multiplier car notre pays n'a pas fini d'être secoué. Notre pays n'a pas fini d'être secoué. Dieu a d'ailleurs parlé dans ce sens les semaines passées. Y avons-nous prêté attention ? Notre plus, c'est la promesse de Jésus que nous accomplirions de plus grands miracles que ceux qu'il a manifestés sur la terre. Alors ça, c'est étonnant quand ça, vous lisez ça les premières fois. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Alors, non pas des œuvres plus puissantes, extraordinaires, mais plus importantes en nombre. Voilà la promesse qui est faite à chaque croyant, c'est-à-dire celui qui croit en moi. Afin que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Vous me direz, je n'ai pas de puissance. Frère, arrêtez, je n'ai pas de puissance. Soit, mais prenons le cas de Paul qui déclare, c'est lorsque je suis faible, que je suis asthénique, que je suis fort. Regardons-le lorsqu'il est emprisonné avec Silas. Paul n'aurait-il pas lieu de se lamenter, de s'offusquer de ces liens qui limitent ses mouvements, puisqu'il a dit qu'il avait des liens même aux pieds, l'empêchant de se déplacer, et de réclamer par l'intermédiaire de son avocat d'avoir de meilleures conditions de détention. C'est ce que font les prisonniers aujourd'hui, puisqu'on parle même qu'il y a des cellules VIP. Je ne sais pas si vous avez entendu cela dernièrement, c'est surprenant, mais certains ont des privilèges. Eh bien non, il nous est rapporté qu'il priait et chantait les louanges du Seigneur. Soit dit au passage, il y a de la puissance dans la prière et dans la louange. Et je ne peux que vous exhorter à prier et à louer le Seigneur. Il y a de la puissance. C'est alors que le miracle survint au travers d'un tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison. Ils se retrouvèrent libres, Paul et Silas, ainsi que tous les autres prisonniers. Tiens, c'est dans le livre des Actes que nous trouvons ce merveilleux passage. Étonnant passage. Dites donc, n'avons-nous pas nous aussi notre livre des actes à écrire ? Au sujet de puissance, qu'est-il écrit concernant la personne de Jésus ? On va pouvoir retrouver ça rapidement, voilà. Il est dit de lui, prophétiquement, il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà ce qu'il est dit de lui. Comme une faible plante. Et vous me dites, frère, je suis sans puissance, je suis faible. Eh bien, tant mieux. Parce que c'est avec ces gens-là que Dieu veut travailler et que Dieu veut investir de sa puissance pour répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Kévin, dans tout le pays de l'Orient, dans le Morbihan et jusqu'aux extrémités du pays. Le moment est venu pour que chacun d'entre nous soit baptisé de son esprit sans restriction et que ceux qui le sont soient puissamment renouvelés. Je fais partie du nombre, j'ai besoin d'être renouvelé. Mais si nous faisons cette prière à Dieu d'être renouvelé, il va y répondre favorablement. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, Dieu veut leur accorder cette puissance. Paul disait, je prie Dieu afin qu'il illumine les yeux de leur cœur. Nous sommes environnés, enveloppés de ténèbres épaisses. La nuit est sur le monde. Mais la loi physique est aussi vraie spirituellement, à savoir que la lumière l'emporte sur la nuit. Et la lumière divine doit l'emporter sur les ténèbres qui nous enveloppent. Avoir de bons yeux dans ces temps difficiles que nous vivons est indispensable, mais ne suffira pas tant les ténèbres sont épaisses. Aujourd'hui, la nuit ne s'est-elle pas étendue sur toute la terre, y compris sur notre pays. Chaque jour nous apporte son lot d'horreurs, de sang innocent versé, de violence, engendrant peur, crainte, angoisse, y compris dans le cœur des chrétiens. Il faut que les yeux de nos cœurs aient le bon éclairage, la lumière qui vient d'en haut. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le ciel. Ce combat n'est pas de nature terrestre, mais de nature spirituelle, c'est un autre point. Nous n'avons pas à lutter contre nous-mêmes, ni contre des ennemis mortels. Il est important de ne pas se tromper de combat, car vous savez, certains, pas ici, mais je l'ai vu ailleurs, passent leur temps, dispersent leurs forces à combattre avec eux-mêmes. Ils boxent le vieil homme continuellement. Or, ce devrait être une question réglée pour toujours, puisqu'il est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous devons triompher de nous-mêmes. Notre moi ne doit plus l'emporter. Et puis d'autres, et ça je l'ai connu, ça c'est malheureux, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. D'autres voient en leurs frères ou en leurs sœurs des personnes à concurrencer, des ennemis à combattre, d'où d'étranges sentiments dans leur cœur. Dans nos communautés, il existe la jalousie. Certains sont encore aux prises avec ce défaut terrible dont ils ont besoin d'être délivrés. À Saint-Malo, nous avons une femme zélée pour Dieu, qui nous a fait la guerre pendant des années. C'est faire fausse route, c'est se tromper de combat. Quel est donc ce combat? Il est spirituel et de plus loin le plus important. Combat contre cette organisation satanique qui, dans l'ombre, veut contrôler et régir notre monde. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, important d'avoir le bon équipement, mais aussi une bonne vue. Là, le Seigneur est prêt à guérir et d'avoir un bon éclairage. Dieu veut illuminer notre route qui nous relie à lui. Il veut que cette route soit lumineuse. Comprenez, nous rentrons, je veux dire Agnès et moi, de la réunion de prière un mercredi soir. C'est le mauvais temps, c'est la tempête, la nuit est noire, le ciel est menaçant. Et tout à coup, l'éclairage de notre voiture fait défaut. Nous ne voyons plus rien de cette route. Nous sommes à l'arrêt. Nos yeux ont beau être grand ouverts. Ce n'est pas suffisant. Non seulement il faut avoir de bons yeux, mais il faut un bon éclairage, et l'éclairage nous fait défaut. Alors qu'en est-il de notre marche spirituelle de nuit ? Une succession de tâtonnements, des chutes répétées, des erreurs d'orientation, un arrêt forcé, des frayeurs, des angoisses. Est à notre entière disposition un éclairage permanent, si nous le voulons, c'est la parole de Dieu. Il est encore dit, et nous tenant pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Et je vais conclure. Paul demande qu'il illumine les yeux du cœur des Éphésiens. Notre prière, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin que soit toujours présent à notre esprit. Que la puissance de Dieu demeure à notre disposition, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Afin que soit toujours présent à notre esprit le combat qui est à mener, et de ne pas nous tromper d'adversaire et disperser nos forces. Et que soit toujours présent à notre esprit que l'éclairage divin dont nous avons parlé ce matin, cette lumière d'en haut, est attachée à la personne du croyant et nous accompagne si nous le voulons. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Vous m'entendez ? C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Éternelle que j'aime à traduire par permanente. Ce qui nous donne en traduction, la semence de vie pour laquelle vous êtes né de nouveau n'est pas de nature éphémère, c'est une semence immortelle, c'est la parole vivante et permanente de Dieu, 1 Pierre 1, verset 23. Sans ta lumière, que ferions-nous, Seigneur, dans ce monde ? Que Dieu bénisse ce propos, il est tout simple. Merci d'y avoir prêté attention. On va prier le Seigneur maintenant. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, qui est cette lumière qui nous a été accordée à la conversion. Merci pour l'œuvre qu'au travers de cette parole, tu as pu accomplir dans nos vies et que tu désires accomplir, à parfaire. Merci pour ta parole. Merci pour l'aide que tu m'as apportée, pour l'aide de ton esprit. Merci Seigneur pour la liberté, pouvoir prêcher. Merci pour cette liberté que nous avons encore. Sois béni, Père. Et je te loue parce que tu as en réserve pour nous tant de merveilleuses choses, de bonnes choses, et tu veux les concrétiser aujourd'hui dans nos vies, aujourd'hui et demain. Merci pour cette puissance dont il nous a été rappelé qu'elle est à notre disposition. Merci d'avoir ta faveur. Merci de ta grâce qui nous accompagne. Sois béni, loué, dans le nom de Jésus. Amen.